parabole du jour avec le Père Willem.
Au cœur de la passion de Jésus, il importe de dire quelques mots à ceux dont le présent est trop lourd, l'avenir trop incertain, le monde trop explosif, pour qu'ils continuent à demander à la vie tous les petits bonheurs qu'elle peut encore donner et puissent trouver, eux aussi, la piste de l'arc-en-ciel. C'est cela que Jésus a vécu. Oui, la réalité peut être merveilleuse, même si la vie ne l'est pas. La vie peut être merveilleuse, même si la réalité ne l'est pas. Oui, la vie, c'est étonnant. Elle n'est ni monolithique, ni rectiligne, ni monochrome. On y trouve aussi bien l'ombre que la lumière, et le jour succède invariablement à la nuit. Tout n'y est jamais tout rose, et le tout noir n'existe pas. C'est notre œil qui voit ainsi, car nous savons fort heureusement que la beauté n'est pas dans l'objet considéré, mais dans le regard qui le contemple. Et il arrive au rire le plus franc de prendre une douche de larmes amères. Certains psaumes, en cette période de la passion, disent même que la vie est une vallée de larmes. Eh bien, des poètes n'arrêtent pas de chanter une certaine joie de vivre. Quant aux orchestres de jeunes, ils s'époumonnent à exprimer la rage et la fureur de vivre. Il me semble que ces contradictions peuvent être mises en harmonie par une formule qui en fait la meilleure synthèse possible et qui, pour cette raison, me fascine depuis bien longtemps. La vie est une fête en larmes. La vie, ce temps déplié où les moments festifs alternent plus ou moins rapidement avec les chagrins et les douleurs, les angoisses et les tourments. On dit d'une situation qu'elle est noire, sans doute parce qu'ici le noir est la couleur du deuil, la couleur de la nuit où l'on perd ses repères, ses moyens et jusqu'à la confiance en soi. Le blanc, quant à lui, c'est le symbole de la pureté, de l'innocence, de l'enfance. Mais les choses ne sont que rarement toutes noires ou toutes blanches. Il existe, sur la palette du peintre, comme dans la vie, une multitude de gris, subtils dosages de noir et de blanc. La lumière évoquée au début de ces lignes, où l'on assimile au jour, au soleil, elle est source d'énergie, de mouvement, d'action, de chaleur et de bien-être. Mais comme les autres, elle est ambivalente et peut devenir dangereuse lorsqu'elle se fait aveuglante, au point que l'on a pu écrire que le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Au contraire, la nuit perçue comme terrorisante peut devenir miraculeusement source de paix, de repos et d'amour. Ô nuit, ô douce nuit, ô laisse encore à nos cœurs le calme enchantement de ton mystère. S'agit-il ici d'une opposition de plus? Sans doute pas. Il s'agit plutôt d'alternance. Et de cette alternance naît et se construit le bonheur humain. Car après la nuit, vient l'aube claire, puis le jour. Et quand celui-ci nous écrase de sa chaleur, se prépare déjà la bienheureuse fraîcheur du soir. Et c'est sans doute pourquoi espoir et désespoir, optimisme et pessimisme, lumière et ombre, n'arrête pas de surfer sur les vagues parfois agitées de nos vies, mais aussi sur l'ennui de ceux qui se sont habitués à vivre dans l'immobilité et l'inaction. Aussi est-ce pourquoi, grande leçon, nous devons apprendre à vivre sans désespérer, dans la familiarité d'idées, de faits et de situations intrinsèquement désespérantes. Nous ne vivons pas encore au pays du peuple des songes. Nous vivons au contact de bien dures réalités, d'avanies de guerre, de violence, de mensonges. Et c'est sans doute pourquoi nous avons besoin de rêves. Nous avons besoin de Dieu afin de pouvoir transcender tout cela, comme nous avons besoin de la beauté et de la majesté des grands édifices pour apprivoiser la laideur des faubourgs. Nous avons besoin d'amour, en recevoir et en donner, pour faire de ce monde-ci une planète vivante, toujours vivable et peut-être de plus en plus fraternelle. Je me souviens quand j'étais jeune, même plus jeune, je me souviens d'un ami qui disait souvent « J'ai dit la vie est méchante », l'écho m'a répondu « Alors chante !» Il dit ça souvent. Quant à Martin Luther, il disait « Si l'on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterai quand même un pommier. » Beaucoup de compatriotes et d'amis courent après l'optimisme et la joie comme après des produits de grande consommation que l'on pourrait acheter dans des grands magasins et qui leur seraient dus automatiquement. Mais le véritable optimisme et surtout le bonheur sont à construire par chacun de nous, jour après jour, avec patience et ténacité. Ils sont dans le faire, F-A-I-R-E, parce que faire est encore la meilleure façon d'espérer. Ils sont dans l'action, comme dans la réflexion et l'analyse sereine et sans farder la vérité. La preuve en est que toutes les névroses naissent quand aucune solution n'apparaît plus possible, quand la souris perdue dans son labyrinthe de laboratoire essaie toutes les sorties et n'en trouve aucune. Et nous sommes nous aussi dans les labyrinthes de tous nos problèmes et de toutes les situations difficiles dont on ne sait trop comment sortir. Alors, posons-nous la question, pourquoi les soignants qui sont au contact des malades et des mourants arrivent-ils globalement à tenir le coup quand même, malgré des conditions et des ambiances de travail écrasantes? Pourquoi ceux qui sont au chevet des grands problèmes du monde, comme la faim, les pandémies, ne se suicident pas? Ils ne se suicident pas parce qu'ils agissent, parce qu'ils savent que des solutions existent, même si les financements ne sont pas toujours au rendez-vous, parce qu'ils sont eux-mêmes l'arc-en-ciel des possibles, sans toujours connaître ce vieux chant Navajo. Prends la piste de l'arc-en-ciel, prends la piste du chant, et la beauté sera autour de toi pour sortir de la brume noire. Prends la piste de l'arc-en-ciel. Ne pas désespérer dans un monde désespérant. C'est bien le plus grand défi que nous ayons à relever en ce début de siècle, et sans doute encore pour longtemps. Mais pour cela, ne pas nier, par naïveté ou sentimentalisme, que ce monde est globalement affligeant. Ne pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quand pullulent les salauds de tout poil. Puis repérer les ferments du salut, les initiatives du refus, les élans immenses de générosité en ce monde. Refaire le miracle de la multiplication des levains dans la lourde pâte humaine. enfin, faire que peu à peu, leur petite musique, inaudible au départ, devienne ce grand, cet immense orchestre qui réenchantera un monde et une époque désabusée, comme l'aurait souhaité Nietzsche, qui voulait que nous ayons toujours au fond du cœur une petite musique pour faire danser le monde.